plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cotes-cotes-cotes.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Édouard Baird.
C'est vrai, moi je viens de faire une baguette tradition. Je crois qu'Atmen a préparé les petites chouquettes. On fait notre pain nous-mêmes.
Oui, mais on avait dit que c'était d'abord au départ. Aujourd'hui, c'était le jour de la sobriété.
C'est la sobriété. Il faut surtout être court, efficace, limite sec, pour pas trop durer en fait, surtout.
Exactement. Un petit peu comme...
Thierry Paret qui est très sobre. Bonjour Thierry, les infos.
Salut les amis, bonjour à tous. 32 sièges pour les libéraux du Premier ministre Mark Rutte contre 19 en faveur de l'extrême droite de Geert Wilders. Ce sont les résultats provisoires des élections législatives aux Pays-Bas. Les résultats définitifs, ils seront connus dans la journée. Ça ne devrait pas beaucoup bouger. S'il se confirme, en tout cas l'extrême droite gagnerait quand même 4 sièges par rapport à l'Assemblée actuelle. François Hollande a réagi, il a salué une nette victoire contre l'extrémisme. Un juge fédéral de l'État de Hawaï a bloqué la nouvelle mouture du décret migratoire de Donald Trump, accusé de discriminer les musulmans et d'être potentiellement anticonstitutionnel. Le premier décret avait déjà été suspendu au bout d'une semaine, c'était en février, obligeant le président américain à revoir sa copie. Un colis piégé a été découvert au ministère des Finances allemand. Le paquet contenant un mélange d'explosifs fréquemment utilisé dans la pyrotechnie aurait pu causer des blessures considérables, si l'on en croit la police berlinoise. Grève, manifestation, occupation du ministère de l'économie, carrément. Des dizaines de milliers de Brésiliens sont descendus dans les rues de Rio, São Paulo, encore Brasilia, pour protester contre la réforme des retraites du gouvernement du président conservateur Michel Temer, qui prévoit de porter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. La triche sur ses moteurs diesel pourrait remonter à plus de 25 ans. Le groupe Renault est dans la tourmente. D'après la répression des fraudes, des stratégies frauduleuses ont été mises en place depuis plus de 25 ans au sein du groupe afin de fausser les tests d'homologation de certains moteurs diesel et essence. Le Front National annonce que son responsable à Nice, Benoît Leuillet, un ex-dirigeant identitaire, est suspendu du parti en vue de son exclusion. Motif, les propos négationnistes qu'il a tenus dans un documentaire tourné dans la Fédération FN des Alpes-Maritimes, documentaire qui a été diffusé hier soir sur C8 et dans lequel il nie le massacre de masse lors de la Seconde Guerre mondiale. Le parquet a requis la peine maximale de 10 ans de prison contre l'ancien policier Jonathan Guyot, accusé de vol de 48 kilos de cocaïne dans les scellés de la police judiciaire. C'était en juillet 2014. 12 vétérans irradiés lors des essais nucléaires français dans le Sahara algérien et en Polynésie française ont obtenu le droit d'être indemnisés par l'État. Entre 1960 et 1996, 210 essais nucléaires français ont été menés au Sahara et en Polynésie, impliquant quelques 150 000 personnes. Carambolage en série, transport perturbé, école fermée, la tempête de neige qui s'est abattue sur le nord-est des États-Unis en début de semaine est arrivée au Canada. Jusqu'à 70 cm de neige se sont accumulés dans certaines régions du pays. Bien que le pays soit habitué à gérer ce type de phénomène météorologique, les services de sécurité, là, ont été surpris par l'ampleur de la tempête qui a déjà tué quand même 6 personnes, victimes notamment d'accidents de la route. N'est pas le PSG qui veut. Ah bah oui, on n'entre pas dans l'histoire de la Champions League comme ça en claquant des doigts, les gars. Monaco l'a pris à ses dépens.
De foot. Là, c'est ça ?
Oui, de foot. Bien. Monaco l'a appris à ses dépens hier soir en se qualifiant pour les quarts de finale de la compétition. Les Monégasques qui n'ont pas de public mais qui ont Mbappé se sont imposés 3-1 à domicile face à Manchester City. Monaco s'était incliné 5-3 au match aller en Angleterre. Le calcul il est simple, 6 partout, mais en cas de match nul, les buts inscrits à l'extérieur comptent double.
C'est donc quoi, c'est cette Monaco. Attaque là, ils n'ont pas de public, qu'est-ce que ça veut dire ?
Il n'y a jamais beaucoup de public, sauf hier soir.
C'est intéressant de dire que si on n'a pas de public, on n'a pas de pression, donc on joue mieux.
Oui, bien sûr. Il n'y a jamais beaucoup de public au stade de Monaco.
Comme nous, on n'a pas d'auditeurs, donc on parle mieux.
L'Atlético Madrid s'est qualifié aussi, qui n'a pu faire que match nul 0 partout à domicile face à Leverkusen, mais les Espagnols s'étaient imposés 4-2 au match aller. Le tirage au sort des quarts de finale de cette Champions League, c'est demain midi.
Court, simple, efficace.
Sobre.
Un très bon café,
voilà, du matin.
Quelqu'un de la chicorée ? Moi, je prends de la chicorée. Non ? Le grand plateau des Côtes-Noisseurs, ce sera dans un instant sur
Nova
Vietmen.
Oui, le temps qu'Edouard Baird nous rejoigne à vélo.
7h-9h, plus près de toi.
Bonjour à tous, ici Édouard Baird, ancien correspondant en Afrique, qui a été rapatrié d'urgence dans cette émission. J'arrivais de vélo d'aéroport pour avoir la joie de vous retrouver. J'ai entendu la pub Lidl.
Oui,
alors,
oui.
Il y a un moment, le mec, il dit, si vous voulez, patron, je vous le fais à la fraise. Il dit, ah non, ramène pas ta fraise. Donc, il y a un jeu de mots, il y a une ambiance.
Il y a un deuxième, il y a tiramisu.
Mais il faut faire quelque chose.
On va manger du tiramisu.
Il faut qu'on demande à Zécri qu'il nous nettoie un peu l'antenne, là, parce que sinon, on sent beaucoup. Bonjour, comment allez-vous ? Comment s'est passée la semaine ? Est-ce l'heure du club des connoisseurs ?
Oui, je crois, on est tous là. Oui. Thomas, Marie, Tito, Atmen.
Leur vie, c'est l'information, mais pas celle qui fait mal, pas celle qui gratte, pas celle qui vole des costards, pas celle qui rembourse le mariage de sa fille. L'information, qui caresse l'humeur du matin.
C'est du croissant dans votre bouche?
Oui, mais je parle de l'autre côté.
Ah, c'est vrai.
On avait dit qu'on parlait...
Vous savez, comme les vieux acteurs de théâtre qui sont tellement habitués, d'un côté ils parlent au public et de l'autre ils disent « on fait quoi pour le spectacle ce soir ?» Donc d'un côté, que vous n'auriez pas dû signaler...
Oui, mais c'est parce qu'il y avait un petit bout quand même.
Non, je peux tout à fait le dissocier complètement. C'est pas, vous parlez et pendant ce temps-là, vos pieds alimentent la dynamo qui fait l'électricité de la radio. Donc ne dites pas que vous ne faites pas plusieurs choses à la fois. Ahmed Khalif parle et de sa main est en train de caresser le pied de Tito tout en lui faisant une French pédicure.
Pourquoi le pied ?
La French pédicure, c'est de rajouter un peu. C'est comme
blanc,
la French manicure.
Le petit truc blanc juste derrière.
Voilà, c'est la French. Et puis des petites étoiles et une bunny de Playboy afin d'érotiser les ongles.
Ça ne va pas tout le monde, la French manicure.
Ça va pas tout le monde.
Il y a des gens à qui ça va pas.
Ça va pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin ?
Par Marie Misset, au départ.
Alors, je sais pas, ce matin, depuis la nuit des temps.
Un lapin tue un chasseur.
Ça c'est l'info. Mais c'est possible. En tout cas, ça se passe dans la forêt, ce que je vais vous dire. C'est un livre allemand de Peter Wohlleben qui s'appelle La vie.
Prononcez des mots allemands, n'ironisez pas là-dessus.
Ah, je parle allemand, j'adore l'allemand, Edouard.
Vous diriez Bill Clinton, vous seriez les gants des blancs, vous dites un petit peu du genre, les Allemands, c'est marrant, non?
Ah non, je le prononce comme un Allemand.
Non, je prononce très bien. Elle a eu raison, très bien. Il faut aspirer la faune.
Bon, Peter Wohlleben, il a écrit un livre qui s'appelle La vie secrète des arbres.
Je veux que de chaque mot, on fasse 8 phrases.
Voilà. Il y a beaucoup de croissants sur la pomme de...
700 000 exemplaires.
Attendez, Marie Misset. Alors ça, du moment qu'il a vendu, vous êtes contente. Vous, c'est légitime. Et Ron Hubbard, il a vendu combien de livres sur la génétique, hein?
Et c'est vachement intéressant, voilà. Ce que je vais vous
dire. Et Mein Kampf, il en a vendu beaucoup aussi, c'est pas pour ça que c'est un livre que je vais vous recommander aux gens.
7h14 déjà.
Déjà, on est très remonté. Alors qu'est-ce qu'il a écrit, Peter Von Hubbard?
Il a écrit des choses sur la vie secrète des arbres. Alors, Libé titre le truc un peu de manière un peu, on va dire, audacieuse et putassière. Les arbres ne voteraient pas à droite, mais le propos est plus intéressant que ça.
Il faut en vendre du papier.
Il raconte par exemple qu'une étude de l'université de Vancouver a même montré qu'une mère arbre peut détecter ses jeunes plants avec ses racines. On a mesuré qu'elle soutient davantage ces derniers. Les arbres décident bel et bien avec qui ils se connectent. Ils ont une mémoire. L'arbre blessé s'en souvient toujours, toute sa vie, et il change de stratégie dès le printemps suivant en réduisant sa consommation d'eau, par exemple, s'il y a eu sécheresse. Bref, c'est tout un livre pour nous expliquer à quelle fois les arbres sont interconnectés, à tel point il y a une communication qui se fait entre les arbres, et c'est pas nouveau, on le sait depuis les années 70. Il dit que c'est un peu triste parce qu'en fait, nos champs de connaissances sont parfois trop coupés, se rejoignent pas assez les uns les autres et qu'on communique pas assez là-dessus, mais les arbres...
C'était par les racines que les arbres
communiquaient. Un peu comme dans Avatar, oui. Les racines sont connectés.
Sans qu'on les voit, c'est un peu comme dans leur chambre, c'est-à-dire ce qui est extérieur, c'est leur vie sociale, leur vie publique, mais en dessous, dans le secret de la chambre, des racines dans la terre, je crois qu'il y a une érotisation, il y a une interpénétration des racines. Est-ce que vous croyez que les arbres, comme les éléphants ou la mule du pape, ont de la mémoire et se vengent? Est-ce que, par exemple, si un jour vous donnez un coup de pied à un arbre, il vous fait tomber une pomme sur la tête et de là la théorie de la relativité de Newton?
Eh bien, il semble que oui, parce que par exemple, ils se souviennent quand certaines biches les attaquent et ensuite ils peuvent produire une hormone pour la repousser. Ils nous disent aussi que les plus faibles sont soutenus car tous y perdent et ils disparaissent. Donc, et ils communiquent via des réseaux de champignons. Enfin, c'est très beau.
C'est très très beau, c'est très très beau. La vengeance des arbres, la revanche, les souvenirs qui remontent. Comme des costumes enfouis dans un pressing suranné d'un appartement abandonné de la Sarthe. Des costumes plus jamais portés, des costumes de congrès, des costumes cadeaux, des costumes offerts. François Fillon ouvre, il voit ranger le bleu, le vert, le gris, l'anthracite, la flanelle, le coton et les laines les plus rares. Il les remettra jamais comme un vieil arbre. Il a juré de se venger. Ses racines plongent dans la terre, arrosées de larmes, arrosées de regrets de sa famille, les mariages remboursés, les couples pénélopés, les... participation mal payée, les assistants renvoyés, il faut se venger. C'est dans la racine des choses, dans les fondements, dans le plongement à l'intérieur de soi-même qu'on trouve la force, dans la rancœur, d'un jour revenir et faire tomber la pomme sur celui-là même qui vous avait condamné. Pendant que le vieux monde est là, à se disputer sur des histoires de notes de frais de bouche, la jeunesse ricane, la jeunesse rit, la jeunesse s'en fout, la jeunesse est loin, la jeunesse est gaie. La gaieté comme l'arbre qui rit, la gaieté est une chevalerie, la gaieté est une chevalerie.
Ouais.
Le club des connoisseurs reprend de plus belle pendant qu'on essaye de joindre évidemment ceux qui font l'actualité. Dans Aujourd'hui, Le Parisien, la sortie de la bande dessinée sur la vie de Gérard Depardieu. Une journée de Gérard Depardieu, c'est quatre vies de normales.
Oui, mais c'est 10 poulets abattus. Des bords, 10 poulets abattus. C'est... Quatre gifles dans le dos, hein, voilà.
Et vous l'avez lu cette bande dessinée, Atman, parce que vous l'avez reçue sans la payer. C'est un de vos avantages depuis que vous n'êtes plus...
C'est un message, merci beaucoup. Alors...
Oui, monsieur Depardieu, bonjour, c'est la Radio Nova, on voulait vous parler de votre livre, savoir si, comment vous étiez répartis les droits entre l'auteur de BD et vous, à tout de suite. Donc le club des connoisseurs, excusez-moi, on appelle pendant, on est c'est de la vie, on est là, vous savez, on est là, vous êtes en train d'instagrammer des photos de vous pendant qu'on parle, pendant ce temps-là, moi j'ai le droit de laisser des messages à des invités potentiels, Thomas Baumgartner est en train de faire des choses qui sont pas avouables à la radio, qui ont rapport
à
l'hygiène
intime. Pardon, vous disiez quelque chose, non? Pardon, j'étais déconcentré.
Alors qu'est-ce que vous avez
moi j'ai juste un flamant rose qui s'écrase sur...
Non, Atman, oui. Vendez-moi mieux cette info. Alors, n'est pas juste, il se trouve que par chance c'est vous qui avez l'info du flamant
alors,
rose.
Alors j'ai une info animalière parce qu'on ne parle pas assez des animaux et c'est une information très importante.
On n'en parle pas assez.
On n'en parle pas assez. Drame hier sur l'aéroport de Montpellier, Garon. Un flamant rose s'est écrasé contre le cockpit, voilà, au moment de l'atterrissage. Oui. Il est allé se suicider, on va dire.
Vous pensez qu'il en a eu marre?
Il en a eu marre. Je pense qu'il en a marre, ce flamant rose, ce joli flamant rose, de vivre en communauté dans les salins du Midi. Oui. Il s'ennuie, je pense qu'il est un...
Alors, est-ce qu'il aurait été oublié? Parce que vous savez que les flamants roses hibernent, ils sont là, ils voyagent.
Alors, il s'est réveillé, peut-être, dans le
Est-ce qu'il a été oublié? Il s'est réveillé trop tard, les autres étaient partis vers l'Afrique. Est-ce qu'il était furieux de sa couleur? Il aurait voulu être bleu, on ne sait pas. Voilà. Soyez allé plonger dans l'info.
Donc, je pense qu'il est daltonien. Je crois qu'il était habillé en bleu, un peu comme Michou, mais en fait, il est rose.
Mais est-ce que vous pensez que les animaux, au lieu de nous attaquer, comme dans les films d'anticipation américaine, vont finir par se suicider de désespoir?
Oui,
Thomas Baumgartner, vous avez pensé à ça? Vous avez vu l'interview de Mathieu Ricard, le moine tibétain, qui a dit qu'aucun goût alimentaire ne justifie la souffrance animale. C'est reparti le débat vegan, non vegan.
Oui, c'est reparti. Il y a plusieurs livres qui sont en train de sortir sur le sujet. On n'en est pas sorti, mais je pense que le suicide des flamants roses sera le premier signe d'une potentielle fin du monde. Oui, donc il faut faire attention à ça.
Non, mais vous voulez s'accoupler?
Non, mais il voulait peut-être Thierry Paret.
Tout ça, c'était pour dire juste à la fin.
Il voulait peut-être s'accoupler. Certaines compagnies arborent le rose comme étendard, puisque c'est le drapeau du Botswana qui est dans les roses. Et peut-être que ce flamand s'étant trompé de compagne, qu'il est costaud, qu'est-ce qu'il est beau, c'est un tôt.
Non, mais tout ça, c'était pour finir par un jeu de mots qui était juste les oiseaux se scratchent pour mourir.
Ah, voilà. Donc c'était le jeu de mots. Voilà. Oui, il en arrive là, Tito, ce jeu de mots.
Ouais, mais un jour, les baleines vont se jeter contre les bateaux parce que des fois, on en trouve sur la plage.
Et vous m'aviez dit qu'une sardine avait bloqué le port de Marseille récemment. Mais ça, on y reviendra. Qu'est-ce qu'on a d'autre ce matin qui soit vraiment chaud, c'est l'actu. Vous avez fait plein de voyelles sans consonne. Vous avez fait un truc qui est très bien, qui est très salon élégant.
Très Jean-Jacques Bourdin.
Moi, je peux tenir 10 minutes quand j'ai rien
dit. Ah, donc vous l'avez lu aussi. Fantomas a été expulsé par les États-Unis dans les derniers jours du mandat d'Obama. Et Fantomas, c'est un hacker russe qui s'appelle Evgeny Bogachev. Et c'est assez rare, en fait, d'expulser comme ça un hacker, en l'occurrence, au milieu de 35 diplomates. Expulser des diplomates d'un pays par un pays et par un autre, c'est possible. Mais pourquoi un hacker? Alors, il se trouve que ce hacker avait déjà détourné 100 millions de dollars à travers une application qu'il avait développé, mais en fait, il se trouve que très vraisemblablement, Fantomas, donc Evgeny Bogachev, avait travaillé directement avec le KGB. Et on apprend dans cet article que parmi les bons hackers, au moins la moitié en Russie travaille pour les structures du pouvoir. Donc ça devient quasiment officiel qu'une bonne partie des hackers russes, qu'on soupçonne de manipulation notamment politique, travaillent directement pour des raisons politiques.
Alors sur le vote électronique, on s'est aperçu donc que François Hollande a demandé à ce que les Français de l'étranger ne puissent plus voter par vote électronique à cause des hackers russes. Mais est-ce que vous pensez que même le vote intérieur français peut être hacké?
Aucune idée. Et je crois qu'il faut savoir dire qu'on ne sait pas.
La France a peur. À chaque fois que vous appuyez sur un bouton de votre clavier, vous croyez être lié à des réalités, à des faits avérés, à des choses qui vont se passer. Non. Dans un petit bureau du KGB à l'est de Moscou, vous a frappé. Un homme se réveille. Un homme frappe sur un autre bouton qui renvoie sur un troisième bouton. Et à ce moment-là, un homme déguisé en bunny vous livre une pizza avec supplément de mozzarella. hacker pour le commerce. C'est la nouveauté, c'est l'avenir.
Je sais pas où j'ai voulu en venir.
Oui.
Moi, je... c'est au moment
mais
de
quel rapport avec Jean Marais
quoi, il faut appeler Pat, me dit Eugénie pour la Saint-Patrick. Oui. Patrick Bossard, qui était notre... Oui, rappelez-vous, il tenait le bar ici, Good Vibe. Depuis, on l'a fait enfermer à Angers pour quelques semaines. Pat, ton vrai nom est Patrick.
Exact, absolument, mon prénom est Patrick.
Eh bien, je te propose ce grand moment de radio qui consiste à dire...
À fêter la non-Saint-Patrick qui aura lieu demain.
Voilà. Oui.
En plus, c'est demain.
En plus, c'est demain, tu vois.
J'en ai marre.
On est vraiment précis sur
la fête. J'en ai marre. On souhaite la fête de quelqu'un dont... Enfin, moi, je m'en fous pas. On a beaucoup d'amis, mais peut-être que l'auditeur se dit, bon, ok, ils se fêtent leur fête entre eux. Et en plus, c'est pas aujourd'hui.
Non, mais peut-être que la Saint-Patrick, il va la démarrer à minuit. Il sera ivre, donc on pourra pas l'appeler
non,
à 7 heures.
J'ai plus envie. C'est vrai. Pat, ça fait plaisir quand même.
Oui. Mais absolument. Puis demain, ça aurait pu être deux pieds.
C'est parce que Patrick Bruel nous a pas répondu. Donc on
Patrick Balkany non plus.
Non, donc tu étais le troisième sur la liste. Ça va, Pat? Cas, tu sais que j'ai su que pendant que j'étais pas là, tu avais fait toucher un tiercé aux auditeurs de Nova.
Ouais,
et j'ai
des
photos d'eux sur Instagram d'auditeurs de Nova dans les îles, en train de se la couler douce, à la fraîche, tranquille, PTDR. Les mecs étaient MDR, il y avait des lol, il y avait des hashtags good vibe, I love my life, thank you tiercé. Il y avait vraiment des très nouveaux hashtags grâce à toi. Pat, you make my days, en mode cool lol. Et puis, il y avait des trucs postés sur Instagram avec la photo de la température. Eh, hey, ici, il fait 26. Salut les cons. Allez, salut à tout de suite. Merci, Pat.
7h, 9h, plus près de toi.
Va faire la météo quand même, Tito.
Hein, oui, bien sûr.
Mais hier, c'était pas... Hier, j'ai écouté là de mon pays lointain, où j'étais là. Oui. Je parlerai de l'Afrique du Sud tout à l'heure. Mais c'était pas exactement flamenco, c'était de l'arnaque. C'était variétoche.
Non, pas du tout. Le flamenco, c'est une grande famille. Et puis, tu sais, on peut dire des laïlolaï dans toutes les phrases.
Ah non, mais le laïlolaï, j'avoue quand même. Mais il y a eu une petite attaque balle variétoche.
Ah, mais.
C'est vaste, le flamenco.
Oui, ben ça va, vous, il l'a dit.
Merci à toi.
Il vient de le dire.
Je le défends.
Mais il n'y a pas
Maître
à défendre. Il peut nous péter les dents à tous les deux s'il veut. Il n'y a pas à le défendre.
Je vais vous rattraper aujourd'hui.
Comment allez-vous? Je vous propose d'écouter tous ensemble le journal de Thierry Paret pendant que Thomas Baumgartner est en train de tweeter à son avocat.
C'est une victoire contre l'extrémisme. C'est François Hollande qui salue le résultat des élections aux Pays-Bas, des législatives. 32 sièges pour
qui
les libéraux.
Qui est François Hollande? Moi, j'ai complètement oublié parce que ça va si vite en politique.
C'est le président.
Oui.
L'ancien.
Enfin, 32
sièges donc pour les libéraux du Premier ministre Marc Rutte contre 19 en faveur de l'extrême droite de Geert Wilders. Ce sont les résultats provisoires des élections législatives aux Pays-Bas. Les résultats définitifs, ils seront connus dans la journée. S'ils se confirment, donc l'extrême droite gagnerait quand même 4 sièges par rapport à l'Assemblée.
Mais comment il est Geert Wilders? J'ai vu des photos de lui, j'essaie de l'imaginer en maillot de bain ou en train de prendre sa douche. J'ai des crises d'angoisse.
Même coiffeur que Trump, il a la même.
Oui, mais s'il y a toute une théorie. Tout à l'heure, on parlera justement de l'alimentation de Trump. Il y a un rapport entre les cheveux, l'alimentation et la politique. Tito, tu vas répéter pendant le journal ou quoi?
Je m'accorde.
Et Geert Wilders, on en parle dans 10 minutes avec Thomas Ruby.
Eh ben voilà, donc on parle de tout. On est au cœur du truc. On est bons, les cocos, ce matin.
Hawaï est le premier État à être parti en guerre contre le nouveau décret migratoire de Donald Trump. Et un juge fédéral de l'État d'Hawaï a réussi à bloquer la nouvelle mouture du décret migratoire de Trump, accusé de discriminer les musulmans et d'être potentiellement anticonstitutionnel. Le premier décret, lui, il avait été suspendu au bout d'une semaine, c'était en février, obligeant donc le président américain à revoir sa copie.
C'est formidable que ce soit un juge d'Hawaï, c'est un peu comme si Marine Le Pen était élue, la croisade était organisée par le maire de Saint-Tropez, je trouve que tout à coup, c'est voilà.
En Allemagne, un colis piégé a été découvert au ministère des Finances. Le paquet contenant un mélange explosif fréquemment utilisé dans la pyrotechnie aurait pu causer des blessures considérables, si c'est ce que nous dit en tout cas la police berlinoise. Grève, manif et même occupation du ministère de l'économie, des dizaines de milliers de Brésiliens sont descendus dans les rues de Rio, de São Paulo, de Brasilia hier pour protester contre la réforme des retraites du gouvernement du président conservateur Michel Temer, qui prévoit de porter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. La triche sur les moteurs diesel de Renault pourrait remonter.
Michel Temer, faut pas le faire. Il faut verser les retraites. On a toute la vie travaillé. On veut un peu la monnaie. Tchouba, Sarava. Pour tous ceux qui méritent leur retraite, Sarava. Pour tous ceux qui ont travaillé toute leur vie, Sarava. Fin de la pause.
La triche sur ces moteurs diesel pourrait remonter à plus de 25 ans. Le groupe Renault est dans la tourmente, on peut le dire. D'après la répression des fraudes, des stratégies frauduleuses ont été mises en place depuis plus de 25 ans au sein du groupe Renault afin de fausser les tests d'homologation de certains moteurs diesel.
Oh, Thierry.
Et, oh la vache. Et essence. Qu'est-ce que je fais? Je décris ou pas? Comment ça se passe?
C'est de l'info, vas-y.
Le Front National a annoncé que son responsable à Nice, Benoît Leuillet, ex-dirigeant identitaire, faut filmer tout ça là, était suspendu du parti en vue de son exclusion, motif les propos négationnistes qu'il a tenus dans un documentaire tourné dans la Fédération FN des Alpes-Maritimes, dans lequel il nie le massacre de masse lors de la Seconde Guerre mondiale. Ces faits ont été diffusés hier soir sur C8 dans un documentaire. Donc voilà. 12 vétérans irradiés lors des essais nucléaires français dans le Sahara algérien et en Polynésie française ont obtenu le droit d'être indemnisés par l'État. Entre 1960 et 96, 210 essais nucléaires ont été menés au Sahara et en Polynésie, impliquant quelques 150 000 personnes. C'est un chantier énorme que vient d'entamer le Pakistan, titanesque même. Le pays vient de commencer avec 10 ans de retard le recensement de sa population. Ça peut paraître banal, un recensement, ça ne l'est pas du tout au Pakistan, parce que au-delà de la logistique politique, notamment en termes du, ça peut avoir de profondes répercussions, notamment en termes de partage du pouvoir et des fonds publics, parce que depuis 98, date du dernier recensement au Pakistan, la situation a beaucoup évolué. On estime la population pakistanaise à 200 millions d'habitants.
C'est le rappel des titres à 7h30. C'est pas toute votre vie, le monde en
Monaco
son état.
A battu Manchester.
Monaco, voilà. Allez, cours de karaté juste avant. Allez, venez à mon cours de karaté. Non. Alors attention, non. Aujourd'hui,
est-ce qu'on doit être en slip? Est-ce qu'on doit être en
cours de karaté pendant qu'on va appeler Jack Souvent? Non, vous vous mettez comme moi, vous mettez un caleçon. Allez, on y va. Le karaté n'est pas une arme d'attaque, c'est un mode de vie, c'est un art martial. Vous allez enchaîner 2-3 kata avec moi. Envoyez une musique, s'il vous plaît.
Une musique de karaté, oui, pas. Bien sûr. Ouais. Je réfléchis.
Ah
mais vas-y, voilà. Non, mais la musique du sport, la musique du sport, celle qu'on adore. Attention.
Attention, touchez-vous, il est temps de vous initier aux arts martiaux.
Moi, je me mets comme
on
vous,
va commencer petit, petit. C'est parti.
C'est parti.
Allez, on y va. Un kata, deux kata, c'est raté, c'est la kata. 1, 2, 3, tu m'en veux, bah tiens, prends ça. Quel combat défensif, je n'ai jamais offensif. Mais si t'es méchant, si c'est pas bien, ça tu vas la prendre, ma main. Kata, les kata, on enchaîne les kata. Les kata du matin, c'est bien. Les kata du matin, c'est bien. Les kata du matin, ça te lance, ça te lance, ça te lance la journée. Enchaîne les kata, fais sortir toute ta colère. Ta haine est en toi, mets-la donc dans la gueule de celui-là. Les kata, Tom, s'il vous plaît, ça va pas, non? Habillez-vous, j'attends souvent dans la rue.
Oui, alors, mais là, l'intensité du soleil, elle a changé beaucoup depuis tout à l'heure.
Ouais. Tout à fait, oui. C'est pour ça que je vais pas tarder à remballer, parce que la lumière est plus bonne pour moi.
On remballe!
Je peux faire les lumières juste avant le lever du soleil ou pendant, mais pas après, quoi.
Vous remballez quoi, monsieur? La palette, les pinceaux?
La palette numérique, si on peut l'appeler comme ça, puisque je travaille avec un Nikon numérique, oui.
Mais vous êtes un paysagiste numérique ?
C'est exactement ça, oui. J'ai terminé il y a quelques mois un livre sur Paris qui s'appelle Paris et ses lumières.
Oui, on m'en a dit.
Chêne,
on m'en a dit du bien, sauf un détracteur qui vous accuse de beaucoup de choses, mais on ne va pas le citer. Donc vous allez vraiment au sujet, comme on dit dans la peinture, c'est-à-dire que vous allez vraiment sur le lieu qui vous inspire.
C'est exactement ça, oui. Je rôde pratiquement 2 ou 3 fois par semaine sur et sous les ponts de Paris.
Alors, hélas, on voit bien comment est le peintre matériel, le peintre qui a sa gouache, qui a ses pinceaux, qui a parfois son petit vélo, parfois même son béret. Mais alors, le peintre numérique, est-ce qu'il y a tout un folklore aussi? Est-ce que vous avez... À quoi ça ressemble un peintre numérique dans les rues de Paris?
Comme il fait beau, j'ai pas besoin de béret aujourd'hui, donc...
Un béret, français.
Baigne, quoi.
Mais sinon, vous sortez comment? Vous sortez cet appareil? Comment vous travaillez? Ça ressemble à quoi?
Ça ressemble à un Nikon D800,
ah oui.
Pour être précis, avec une demi-douzaine d'objectifs. Et surtout, ce qui fait la qualité de la photo, c'est un trépied très lourd qui permet d'assurer... les temps de pose longs, puisque c'est presque toujours en pose très longue ce que je fais.
Et monsieur, ce trépied, est-ce que vous vous mettez derrière sous un voile noir, comme à l'époque de l'Argentique, vous envoyez dit, est-ce que le petit oiseau va sortir?
Le petit oiseau, en général, c'est plutôt des grosses mouettes ou des gros pigeons. Et ils sont toujours de sortie, donc on n'a pas besoin de leur demander quoi que ce soit. Vous vous avez dit, il y a toujours une grue dans le paysage qui fait chier, quoi. Par contre, oui, ça, il y a toujours des grues et heureusement qu'il y a Photoshop maintenant, parce que entre les grues et les papiers gras et les bouteilles qui traînent le matin, c'est un peu l'enfer pour avoir à présenter des photos propres.
Mais la propreté, c'est un risque, la propreté. Vous n'acceptez pas les détails de la vie qui salit, la vie qui bouge, la vie avec les rebuts de la société de consommation, des bouteilles qui flottent, une grue, des friches industrielles. Vous n'aimez pas ces paysages-là?
Moi, j'aime bien la vie idéalisée, pas la vie cracra des lendemains de fête. Ouais.
Monsieur, la vie idéalisée, ça a un nom, c'est la mort.
Ça n'engage que vous.
Ça n'engage que vous.
Ouais. Oui, moi, j'étais plutôt en train de parler du pétillement de l'eau, de l'intensité du soleil qui changeait. Mais là, vous êtes parti sur les livres, oui, du coup, je ne sais pas quoi. Voilà. Et moi, Edouard, je remonte la Seine en traversant tous les ponts ce matin. C'est-à-dire, je zigzague.
Mais j'entends bien, Jacques, souvent. Voilà. Mais vous le faites à la demande de qui? C'est une feuille de route qui a été signée par qui? Y a-t-il une réunion rédactionnelle? Est-ce que vous êtes en train de répondre à un cahier des charges ou est-ce tout simplement une école buissonnière que vous vous autorisez à nos frais?
Non, on m'a dit les ponts ce matin, il y en a 31 dans Paris, comme disait Coltèche, et tu vas toutes te les faire, tous te les faire.
Tu vas tous te les faire, les ponts qui relient, hein.
Oui, la gaieté comme la chevalerie, donc on va essayer de chevaucher les ponts et d'y aller.
Merci jeune peintre numérique, merci superbe Jacques Souvent, à la fois sauvage, souple et excellent amant.
Allons-y.
M'a-t-on dit. À tout à l'heure.
7h-9h, Edouard Baird.
Ça me rappelle rien.
En fait, il y aurait trois solutions pour éviter la pub. Un, ça serait nationalisation de Radio Nova, donc on serait payé par la redevance. Oui. Le deuxième, c'est les Qataris, qui serait intéressé par Nova, qui rachète tout. Et donc, au lieu de la pub, ils disent tous au Qatar. Et la troisième, c'est Mathieu Picasse, le patron actuel, qui pourrait envoyer de la thune et remplacer par des messages à sa gloire. Oui. Gardons la pub. Tout de suite, la nouvelle rubrique Journaliste et mannequin.
Journaliste et mannequin.
Aujourd'hui, face à face, Thomas Baumgartner. Salut
Journaliste.
Thomas.
Salut.
Et Thomas Ribi.
Mannequin.
Non, les deux sont les deux.
Non, je préfère.
Dis donc. Attendez.
J'ai une réunion. Tu m'as pas briefé. On avait dit.
Dans Journaliste et Mannequin, les deux sont les deux.
Alors, on peut le refaire alors.
Alors, je ne sais pas si on va le refaire.
Mais si, c'était intéressant.
Mais attention. 7h45, c'est l'heure de Journaliste et Mannequin.
Journaliste et Mannequin.
Avec Thomas Baumgartner.
Journaliste et Mannequin.
Face à Thomas Ribi.
Mannequin et journaliste.
Moi, je préfère dans ce sens-là, moi, perso.
Qui vont nous parler de.
De mannequinat, justement, et de comment rester journaliste.
De
et
quel
beau.
Nom une
Ah, pardon,
qui
de Geert Wilders, le grand méchant hollandais qui a perdu les élections hier.
Journaliste et mannequin.
Non, lui, non. Vous êtes tombé dans ce piège grossier.
Mais si.
Alors, Thomas Ribi, qu'est-ce qui s'est. Alors, il faut. C'est vrai que ça nous concerne plus qu'on croit, la Hollande, parce qu'il suffit qu'un des piliers de l'Union européenne vire à l'extrême droite pour que ce jeu de dominos s'effondre.
Je vais vous répondre tout de suite. Je tiens à dire quand même que c'est un peu déstabilisant qu'on parle de mon physique. Je n'aime pas parler de moi, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'efforts.
Écoutez,
pour moi, c'est très important d'être pas seulement journaliste, mais aussi de prendre soin de moi physiquement.
Voilà. Mais en même temps, vous avez marre d'être embauché pour votre physique.
Exactement. Donc j'ai essayé d'écrire quelque chose sur ce Geert Wilders.
Pas vous même que ça arriverait. Bon. Alors, c'est pas vrai du tout. Vous êtes ma petite beauté.
Bref, je vais donc vous parler de ce Hollandais qui fait peur à l'Europe. Oui, l'Europe a peur. Enfin, sauf peut-être la Pologne et la Hongrie qui ont déjà des gouvernements d'extrême droite. Mais à part eux, l'Europe
ils
a
ont
peur.
Plus le temps d'avoir peur.
C'est clair. En tout cas, moi j'ai peur. Mais
non,
de qui?
T'as pas peur.
Bien
t'as
sûr
pas
que
peur,
j'ai peur. Je vais vous dire pourquoi. J'ai peur de Geert Wilders, le nouveau visage de l'extrême droite continentale. Alors hier, les Hollandais ont voté, ils élisaient leurs députés. Sa formation est arrivée deuxième ex aequo, derrière le centre-droit, donc il n'y a donc aucune chance que Geert Wilders ne devienne Premier ministre. Certains sondages le donnaient vainqueur ces dernières semaines. Il a perdu et pourtant il fait peur. Pourquoi? Parce que quand même, c'est effrayant d'imaginer qu'autant de gens ont voté pour lui. Geert Wilders, qui est-il? C'est un grand homme, enfin un grand homme en taille, il est très grand. Il a les cheveux très blonds, presque blancs, tirés en arrière. Il a 53 ans. Et c'est le président fondateur et unique membre de son parti politique qui s'appelle le PVV. En hollandais, c'est le Parti voor de Vrijheid. Vous noterez l'effort que je fais pour prononcer l'hollandais, c'est pas une langue facile à prononcer.
Unique membre ?
C'est l'unique membre. Alors déjà, Parti voor de Vrijheid, ça veut dire le Parti de la Liberté. Tous les autres candidats aux législatives sous cette étiquette sont rattachés au parti, mais c'est lui le seul qui en fait administrativement.
Ah, ce sont les statuts, c'est pas que personne ne veut y aller. Ce
non,
sont
les autres se présentent partie. Sous cette étiquette,
très,
mais
très
dans les statuts, c'est
le point d'Edouard Baird.
Très, très journaliste et mannequin, vous pourriez comprendre. Et donc, la particularité de Wilders par rapport à la plupart des autres leaders d'extrême droite européens, c'est que lui ne se cache pas. On est loin de la dédiabolisation à la française, du discours lissé auquel on est désormais habitué. Avec lui, c'est assez simple. Tout tourne autour des musulmans. Il essaye même pas de prétendre faire une différence entre islam et islamisme, entre terrorisme oui. et religion.
Pour c'est lui, pareil. Tous dès les musulmans voit, sont dangereux. Dès qu'il voit une assiette de couscous, il appelle les flics.
Je vous jure que c'est là, presque vrai.
Direct, c'est parti,
on n'est pas loin de la caricature. Oui. Son programme, fermer toutes les mosquées du pays. Interdire la vente du Coran qu'il compare à Mein Kampf. Interdire d'entrer aux Pays-Bas tous les musulmans. Il compare les délinquants d'origine marocaine à des terroristes des rues, c'est son expression. Il veut par exemple créer des villages de racailles, c'est aussi son expression, où il isolerait tous les délinquants récidivistes, dans des villages de racailles. Donc, pour que tout ça passe mieux, il se présente comme un défenseur des libertés fondamentales. Il dit que s'il déteste tant les musulmans, c'est parce que par exemple il veut défendre les droits des homosexuels ou les droits des femmes, qui sont selon lui menacés uniquement par les musulmans. Pareil, il dit qu'il veut lutter contre l'antisémitisme, car les juifs, selon lui, ne sont menacés que par les musulmans.
Bref, ça, c'est une sorte de, c'est une caractéristique d'une nouvelle forme d'extrême droite qui a une part de libéralisme à l'intérieur de son programme.
Et c'est très hollandais, c'est quelque chose qui a été lancé par son prédécesseur qui a été assassiné, Pim Fortuyn, qui était lui-même un défenseur de la cause homosexuelle. Il disait, une des manières de défendre la cause homosexuelle, c'est d'attaquer une autre...
Et puis sortir le mot nazi sur tous les autres. C'est tous les autres les nazis. Ça, c'est...
Alors, je ne sais pas s'il traite les autres de nazis.
Bah, les musulmans, surtout.
Enfin, les musulmans, oui, il les compare aux nazis, exactement.
Ne me contredisez.
non, mais c'est vrai, en plus, vu qu'il compare Mein Kampf avec... le Coran avec Mein Kampf, c'est quand même un petit point Godwin. Et derrière ce discours, il y a un mystère autour du personnage de Geert Wilders. C'est quelqu'un de très discret. Il se montre très peu en public pour deux raisons. Tout d'abord, il n'aime pas les médias. Bon, ça, c'est la mode. C'est pareil ici et c'est pareil ailleurs. Mais aussi parce qu'il vit sous haute protection. Il est en permanence accompagné d'au minimum 4 gardes du corps. Son nom est en haut de la liste des personnalités visées par des djihadistes. Et en Hollande, où deux idéologues d'extrême droite, dont Pim Fortuyn, dont on parlait à l'instant, et Theo van Gogh, ont été assassinés dans les années 2000, on prend ces menaces très au sérieux. Résultat, il ne se montre que rarement, il ne peut pas beaucoup sortir de chez lui, il fait peu d'apparitions, il répond à très peu d'interviews, il passe beaucoup de temps sur Twitter, il tweet des choses en général très méchantes, très désagréables, mais on ne sait pas grand-chose de lui. Et résultat, vu qu'on ne sait pas grand-chose de lui et que ça fait quelques semaines qu'il était en tête dans les sondages, les journaux ont commencé à enquêter ces dernières semaines sur sa personnalité et sur son histoire. Et ils ont trouvé un certain nombre de choses. Ça a commencé en décembre dernier. Le grand frère de Geert Wilders, qui s'appelle Paul Wilders, il a 9 ans de plus que lui, a commencé à raconter l'histoire de Geert à la télévision. Il a dit que c'était, j'ouvre les guillemets, un sale gamin égocentrique et agressif quand il était enfant. Il a dit qu'il écoutait The Cure et les Sex Pistols, bon. Il a dit aussi qu'en grandissant, il n'a jamais supporté la contradiction, qu'il est très isolé et que son seul plaisir dans la vie est la politique. On l'aura deviné, les deux frères sont brouillés, ils ne se voient, dit le grand frère, qu'à l'anniversaire de leur mère, et on peut imaginer que l'ambiance à table est moyen au mieux. Bref, deuxième info, Geert Wilders aurait vrillé politiquement suite à un séjour de 2 ans en Israël après la fin de ses études. Il en serait revenu avec une peur bleue des musulmans. Il considérerait que le conflit qui a lieu là-bas aura bientôt lieu ici en Europe. Et troisième info, ma préférée, qui vient de sortir, son biographe affirme à la presse que l'une de ses grands-mères serait indonésienne. Et l'Indonésie, c'est une ancienne colonie hollandaise. Le frère de Geert Wilders, Paul, confirme cette information. Or, l'Indonésie, c'est un pays majoritairement musulman. Geert Wilders aurait donc peut-être lui-même des origines musulmanes. Alors, certains journaux surenchérissent. Ils imaginent que Wilders se teint les cheveux en blond pour cacher son terrible secret.
Thomas Riby, je comprends bien ce que vous cherchez à faire, mais il me semble que ça suffit la première partie. Il faut faire un débat d'idées, idées contre idées, contre cette idée de diabolisation des musulmans. Il me semble que le combat est suffisant, est assez intéressant. Vous n'allez pas faire comme en politique française actuelle, au lieu de s'en prendre aux opinions de François Fillon, de s'en prendre à sa garde-robe. Les opinions contre les opinions, pas le petit bout de la lorgnette.
Non, mais en même temps, la garde-robe...
Pas cette politique-là, on en crève de cette politique-là. On en crève de ce journalisme-là. La première partie me suffisait.
Mais non, elle est bien la deuxième partie.
Ragoteur. Salaud, journaliste de Voici, closer, hétéro.
Et mannequin.
Et mannequin. Thomas Baumgartner, autre chose.
Moi, j'ai bien aimé la deuxième partie aussi.
Oui, mais
désolé.
Parce qu'on est dégueulasse, on a envie de savoir ce qu'il y a dans son froc, c'est ça notre problème.
Moi, parce que ça, c'était la troisième partie.
Est-ce qu'on se prépare un bon couscous pour oublier tout ça?
Non, parce que le couscous mène au djihad. Ah non, ça y est, j'ai lu trop de Geert Wilders. Merci Thomas.
Avec joie.
Infiniment.
Avec grande joie.
Thomas, plus près de toi.
7h, 9h.
Mais c'est beaucoup trop court.
Alors Manon, assieds-toi quand même. Aujourd'hui, c'est le jour où on a cours, les enfants, ou pas, Manon, t'as cours ?
Oui.
C'est une école où on travaille mercredi matin et samedi matin, ou pas ?
Que mercredi matin.
Et samedi, donc grand week-end ?
Donc là, il se passe quoi quand t'as des grands week-ends? Tu en profites pour faire quoi?
Bah, on se repose ou bien on va à Fontainebleau.
À Fontainebleau, faire de l'escalade sur des rochers? Non, de la balade en forêt?
On va dans le jardin.
Ah, vous avez un jardin, vous allez à Fontainebleau. Mais dis-moi, tu te reposes parce que c'est si fatigant que ça, la semaine à l'école?
Non.
Non, pas tellement. Et c'est quoi ce que tu aimes en dehors de l'école?
La danse contemporaine.
Ah bon? Montre-moi. La danse classique, je vois. La danse classique, c'est des entrechats. Mais la danse contemporaine, c'est comment?
Un petit peu comme Caroline Carlson.
Ah oui, d'accord. Mais c'est des trucs très... D'accord, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça si jeune. Et c'est ta passion, alors, la danse contemporaine. Tu peux nous en faire un tout petit peu à la radio? Juste assise. Montre-moi avec les mains ce que ça donnerait. Je décris ce que tu fais. Alors. Ah oui, c'est très beau. Ben non. Oui, c'est parce que ça évoque des choses. Là, on dirait une sorte d'oiseau qui voudrait s'envoler un peu.
Oui.
C'est très beau. C'est très étonnant. C'est très expressif. Et la poésie, ça, c'est plutôt à l'école, alors?
Oui.
Alors, ce poème s'appelle « Au pays des légumes ». C'est formidable parce qu'il y a des mots qui ressemblent à des mots de la vie de tous les jours, mais qui sont transformés en mots légumes. On t'écoute.
Au pays des légumes, par un temps légumineux, je voyageais en citron, car il était plus de minuit. J'étais fatiguée, mes lentilles vertes me faisaient mal aux yeux. Et je me dis « Salsifie, salsifie, comme ça !» Et je m'arrêtais au coin de la rhubarbe, dans une petite aubergine. Je pris une chambre qui donnait sur une jolie courgette fleurie. Et je dormis dans un brocoli moelleux. Quand je me réveillais, le soleil brillait de tous ses pétales. Il faisait artichaut et j'étais chou rouge. L'aubergine était très chère. Et comme je n'avais plus d'oseille, je suis partie sans topinambour ni trompette en appuyant sur le champignon. De Constantin Keitel.
Formidable, c'est formidable. Alors, un tout petit truc, je pense que tu as... Bon, c'est un poème où c'est vrai qu'il prend plein de noms de fruits et de légumes qui ressemblent à des vrais noms. À un moment, tu dis salsifie. Redis-le, ce petit passage-là.
Salsifie, salsifie. Comme ça.
Eh bien, est-ce que tu penses que salsifie est mis pour un autre mot?
Oui, comme ça suffit.
Oui, mais donc tu dirais ça suffit comme ça. T'es d'accord si c'était... Alors, dis-le comme si c'était ça suffit.
Salsifie, salsifie, comme ça.
Eh ben non, parce que tu dirais ça suffit comme ça, et pas ça suffit comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouais. Ça suffit comme ça. Donc ne fais pas une virgule avant le comme ça. On recommence à je me dis. Vas-y, je me dis. Et je me dis.
Et je me dis, ça suffit comme ça.
Voilà, tu mets pas de virgule avant le comme ça. Super, et là on atteint 10. Ensuite, l'année prochaine, c'est le bac. Ensuite, c'est l'ENA, et ensuite la présidence de la République. Et ça a commencé parce que tu as corrigé ça. Je t'embrasse très fort.
Moi, j'ai assisté à cette masterclass, c'était magnifique. Tout un travail sur ça suffit, c'est incroyable. Est-ce que vous pouvez me faire passer le conservatoire, s'il vous plaît, monsieur?
Vous voulez passer, tu aimerais pas faire ça, tu voudrais pas être actrice quand même, si? Non, il y a trop d'actrices et trop peu de rôles. Tu sais déjà le métier que tu vas faire?
Oui.
C'est quoi?
Danseuse de danse contemporaine.
Comme Atmen.
Et mannequin.
Et journaliste. Merci ma belle, on t'embrasse très fort. Tito est en train d'accorder sa guitare météo. Ça va être une météo en quoi, Tito, si je souhaitais la podcaster?
Météo exotique.
Alors, continuez à répéter, je vous sens presque prêt. Mais d'abord, le journal de Thierry Paret. L'honneur de cette émission.
Geert Wilders, qui perd son pari, le leader de l'extrême droite néerlandais, gagnerait certes des sièges à l'Assemblée nationale, mais pour autant il arriverait largement derrière les libéraux du Premier ministre Mark Rutte. Ces derniers obtiendraient 33 sièges environ, contre 20 au parti de Geert Wilders. Ce sont donc des prévisions, les résultats définitifs seront connus dans la journée. Le scrutin a été marqué par une participation massive. Près de 78% des 13 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes.
Attendez, il y a des gens qui rentrent dans le studio,
oui,
pendant le journal de Thierry Paret. Est-ce que pendant le 20h, tout à coup il est là, ils sont assis là, il y a mon petit Delahousse qui est là. Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Juliette.
Mais qu'est-ce que tu fais, Juliette?
Je suis en stage d'observation pendant une semaine ici.
Ah, mais d'où cet air d'observatif?
Observatif.
Te sentais très... Et ensuite,
c'est
feras
l'œil
un stage
de Moscou, d'ici.
La première semaine, c'est stage d'observation. Ensuite, il y a le stage de délation. C'est-à-dire que tu notes des petites choses qui se passent et tu les envoies d'une façon anonyme au patron. Reste dans le coin. Ouais.
Hawaï était le premier État américain à partir en guerre, entre guillemets, contre le nouveau décret migratoire de Donald Trump. C'est donc tout logiquement un juge fédéral de cet État qui a réussi à bloquer la nouvelle mouture du décret, accusé de discriminer les musulmans et d'être potentiellement anticonstitutionnel.
Il n'est pas d'Hawaï, Obama, il était d'Hawaï.
Si, tout à fait, ouais. Le premier décret avait déjà été suspendu, hein, au bout d'une semaine, c'était en février, obligeant donc le président américain à revoir sa copie. Autre dossier compliqué pour Trump, c'est le démantèlement de l'Obamacare. Le président américain planche avec les élus républicains en ce moment sur des aménagements au projet de loi visant à remplacer la réforme de Barack Obama par un nouveau système de couverture sociale. Or, selon les derniers chiffres, ce démantèlement de l'Obamacare pourrait priver entre 24 et 25 millions d'Américains d'assurance santé à l'horizon 2026.
Il y a un document incroyable, on voit Bernie Sanders qui fait une tournée de toutes les régions qui ont voté Trump en grande majorité, et il va au contact, il prend des gens vraiment, ce qu'on appelle les petits blancs là-bas, c'est-à-dire des gens qui ont été paupérisés, des gens qui ont été dans la misère, des gens qui ont peur de l'avenir, qui ont voté Trump et qui ont voté contre l'Obamacare, et il leur explique calmement, et à la fin de chaque discours, les mecs l'applaudissent. Ah bon, c'était ça l'Obamacare? Eh ben merde, c'est bien.
Beaucoup de manifestations hier au Brésil, à São Paulo, à Brasilia, à Rio également. Il y a même eu une occupation du ministère de l'économie, hein, carrément. Les Brésiliens sont descendus dans les rues pour protester contre la réforme des retraites du gouvernement du président Michel Temer, qui prévoit de porter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Le groupe Renault, lui, est dans la tourmente. Hein, d'après la répression des fraudes, des stratégies frauduleuses ont été mises en place depuis plus de 25 ans au sein du groupe afin de fausser les tests d'homologation de certains moteurs diesel et essence.
Quoi? Tiens, vas-y, on imagine deux ingénieurs. Dis-moi, oui. Change la virgule, là. Parce que là, on est plus dans les normes
ça
sur le diesel.
Ça fait trois fois qu'on l'a changé,
oui,
déjà.
Oui, mais bougez un petit peu et
oui,
ça passera.
Sur le côté. Ah, ça passe.
Vous assistez à la reconstitution tout à fait étonnante par des comédiens français d'une réunion d'ingénieurs Peugeot
vieux
qui
comédien.
Veulent truander le
Renault.
Diesel.
Renault.
En plus, ils s'appellent.
Attention, attention.
c'est vraiment des très, très vieux sketchs qu'on nous a refusés sur Rire et Chanson.
Le Front National suspend Benoît Leuillet et annonce sa prochaine exclusion du parti. Cet ex-dirigeant identitaire, responsable du FN à Nice, dans un... Alors pourquoi? Parce que dans un documentaire... Dans un documentaire diffusé sur C8 hier soir, on entend Benoît Leuillet, alors c'est caméra cachée, tenir des propos négationnistes, c'est-à-dire qu'il nie notamment...
Peux rester, finalement.
Il nie le massacre de masse de la Seconde Guerre mondiale. C'est un chantier énorme que vient d'entamer le Pakistan. Le pays vient de commencer avec 10 ans de retard le recensement de sa population. Des projections estiment la population pakistanaise à 200 millions de personnes. Alors pour établir ce nouveau recensement, la population sera divisée en 3. Les hommes, les femmes et, pour la première fois, les transsexuels qui sont souvent persécutés au Pakistan. Carambolage en série, transport perturbé, école fermée. Bref, la tempête de neige qui s'est abattue sur le nord-est des États-Unis en début de semaine est désormais arrivée au Canada et elle a déjà fait 6 morts, victimes notamment d'accidents de la route. C'est une décision qui pourrait être une première mondiale. Un fleuve considéré comme sacré par les Maoris a été reconnu par le Parlement néo-zélandais comme une entité vivante. Il s'appelle le Whanganui. C'est le troisième plus long cours d'eau du pays. Il s'est vu doté d'une personnalité juridique avec tous les droits et les devoirs attenants.
Monaco. Ils ont beaucoup de dieux dans les eaux là-bas.
Ouais.
Pardon ?
Ils ont des divinités aquatiques. Beaucoup.
D'où viennent vos informations, Atman ?
Parce que je suis allé voir Vaiana au cinéma avec les de chez Disney et il y avait des dieux qui sortaient de l'eau.
Mes informations. Vous tirez votre culture des films pour enfants.
Exactement. Par exemple, dans Bernard et Bianca, c'est la petite souris et copine avec l'albatros.
Oui, mais quand ils mangent des nouilles dans La Belle et le Clochard, vous pensez vraiment que les chiens mangent des pâtes à la tomate ?
Exactement. Voilà.
Regardez les dessins animés et découvrez le monde. Dans les 101 Dalmatiens, vous apprendrez à vivre en famille. Allez, à tout de suite. Et dans Mickey, vous saurez comment vous devez nettoyer les oreilles quand elles sont très grandes. Dans Picsou, apprenez à faire des économies.
Oui, exactement. Et puis dans le livre de la jungle, le singe est ton ami. Voilà.
Puis quand même, Monaco a gagné la qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, quand même, au passage.
Monaco.
Oui.
Voilà.
Monaco, c'est l'endroit.
Tirage au sort demain midi.
La dame qui pose en photo dans le journal. Alors, oui.
Ben oui.
Si vous, oui. Oui.
Doucement.
Non, mais attendez, Tito, attendez. Vous n'avez pas à être bousculé. Vous êtes artiste. Vous êtes flamenquiste. Vous jouez lorsque vous le sentez, lorsque le duende a fleur à la bouche. Vous n'avez pas à subir les dictates d'Atmen Kelif qui, tout à coup, en mon absence, a pris le melon. Ils ont fondé un parti avec Armel, les Armel et Atmenistes, et tout à coup, qui ont dirigé cette émission d'une main de fer.
On était barouins.
Humiliant, mon ami Thierry Paret. Baumgartner a été relégué au chien écrasé. Non. La météo, Tito. Pour le moment, pas un chiffre.
Ça va venir. Alors figurez-vous aujourd'hui, les Patrick, les Patrice, les Patoches, les Patates, les Patouches, les Papates, les Pattes, les Pitous. Bonne fête. Alors on est en
températures seront de 5 à 21 à Agen, Avignon de 6 à 22, à Bordeaux de 7 à 23, à Boulogne-sur-Mer de 7 à 12, à Évreux de 6 à 18, à Limoges de 6 à 21, à Metz de 6 à 18, à Paris de 6 à 18, à Poitiers de 6 à 20, à Saintes de 6 à 22, à Vienne de 7 à 21 et à Nouméa de 23 à 29.
Vorare cantare et maintenant Jack Souban.
On fait, moi je sais pas, on en parle, on en parle pas?
On en parle ou pas?
Si on en parle. Parce que si on continue d'en parler, ça va s'arrêter de. Ça va continuer quoi.
Bah si on en parle.
Je suis avec Jimmy, on est sur le pont neuf, j'ai avancé, et là il y a à peu près 350 000 cadenas.
Bon, 500 000 cadenas, hein. Ça, les cadenas c'est pour les trucs des amoureux. Mmh. Bon, il y a des gens qui croient en accrochant les cadenas, ils vont rester à vie amoureux, mais bon, déjà c'est bien pour la mairie de Paris, parce que ça permet à la mairie de Paris de faire des sous quand même. Hein.
Comment ils font des sous?
Ah ben, si les gens ils achètent beaucoup de cadenas, les commerçants ils sont contents. Donc la mairie de Paris est contente parce que les impôts augmentent quand même, ça, c'est bien. Donc c'est important pour la mairie de Paris, c'est l'économie de la mairie de Paris aussi, et puis ça permet à la mairie de Paris de payer ses employés aussi, il faut dire la vérité, c'est comme ça.
Alors les cadenas sur le Pont des Arts, c'est effectivement le symbole pour les touristes et les amoureux. On met les initiales, on accroche le cadenas à la grille du pont, et tout à coup ça dure. Est-ce que les cadenas durent souvent plus que les relations amoureuses qui sont censées symboliser, Jimmy, vous pensez?
Ah, moi je vais pas vous dire si ça dure, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y en a qui y croient beaucoup. Comme je vois, bon, comme le collègue disait, tu as 350 000 cadenas, moi je pense qu'il y a plus de 500 000, hein, je crois.
Alors 500 000 cadenas, en imaginant plus, que c'est des couples de deux personnes, on est sur 250 000 couples. Vous-même, Jimmy, vous êtes en situation de couple en ce moment?
Ah oui, mais plus, je suis même père de famille. Voilà.
Mais vous iriez jusqu'à cadenasser votre couple? Vous iriez pour rassurer madame?
Ah non, pas du tout, je crois pas à ces trucs-là, moi.
Okay. Il y a plusieurs, sur les cadenas, des fois ils viennent à 4 ou à 5. Hein.
Oula.
4, 5, voire 6, hein.
Ils ne viennent pas au moins. Ça ne nous regarde pas, ça. Oui,
ça nous regarde parce qu'on les voit.
Oui, mais c'est des pratiques. Après, bon, chacun un petit peu expérimente ses sexualités, ses sentiments, je crois que vous avez
dit. Ah oui, je pense que ça, ouais.
Et il y avait des petits rubans au début, vous me dites, ça fait au moins 15 ans que ça existe. Il y avait des petits rubans, maintenant on est passé au métal dur. Hein.
Ah si, avant il y avait des petits rubans. Et comme c'était pas, comment on dit, esthétique. Donc la mairie paraît les couper parce que ça faisait pas trop belle, c'était sale, donc on coupait ça.
Jimmy, vous évoquez beaucoup la mairie de Paris, est-ce que vous travaillez pour la mairie de Paris?
Ça fait 20 ans, bientôt 20 ans. Bientôt.
Vous en avez vu passer, hein, donc...
J'en ai vu, hein, de tous les couleurs.
Anne Hidalgo, de la Noé, ensuite vous...
Ah oui, Chirac.
Chirac.
Tibéri.
Vous savez que la campagne de Chirac, c'était « Les amoureux de Paris sont unis, tous unis, avec Chirac pour Paris », et là forcément ensuite, d'où les cadenas, d'où le Pont des Arts, d'où Jimmy.
Ouais, mais ça vient avant Chirac, les cadenas, ils existaient déjà.
Ah bon?
Mais c'était pas connu.
C'était peut-être des cadenas pour les scooters, les motos, oui. Et dites-moi, vous, Jimmy, comment vous, dans votre vie amoureuse, vous ne pratiquez pas le cadenas, alors comment vous signifiez votre amour à votre femme? Comment vous dites à votre femme que vous l'aimez, alors?
Ah ben, avec les gestes. Il y a des gestes. Le matin, on se réveille, un petit câlin, vous vite fait, ou des gestes, ça. En cuisine, on fait des choses.
Alors, vous savez que la radio, c'est une radio qui est très visuelle. Pourriez-vous pratiquer ces gestes sur notre journaliste Jack Souvan, qu'on les comprenne mieux?
Comment?
Pourriez-vous pratiquer ces gestes sur Jack Souvan, notre journaliste, pour qu'on ressente mieux comment vous faites passer vos sentiments?
Ah non.
Non, mais comme au théâtre, enfin, il n'y a pas
Ah
de...
Non, quand même. C'est pas une femme, c'est un homme. Quand
oui,
même.
Non, mais il peut symboliser. Vous savez, au théâtre, beaucoup de rôles de femmes sont tenus par des hommes. Hein, c'est une tradition théâtrale. Vous avez combien d'enfants sont le fruit de cet amour, Jimmy?
Moi, j'ai deux fois. J'ai 5 enfants en tout. Hein.
Deux fois pour arriver à 5, donc des triplés et des jumeaux?
Non, quand j'ai dit deux fois, ça veut dire que j'étais deux fois en couple.
Ah.
Deux mariages.
Deux mariages, zéro cadenas, 5 enfants. C'est joli bilan, Jimmy. Vous aimez être sur les ponts de Paris la journée?
Ah non, ça c'est pas moi qui a choisi, c'est le chef qui m'a envoyé dans ce secteur-là, donc voilà.
Qu'est-ce que vous aimez bien dans votre métier? Quels sont les meilleurs moments?
Rencontrer les gens, parler avec les gens un peu, des fois.
Les gens sont causants?
Ah oui, il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup.
Ils vous disent quoi?
Ah, ils demandent des coordonnées, des adresses, ils demandent des trucs comme ça, quand ils sont perdus... Ou voilà, des trucs comme ça.
Et vous connaissez bien Paris?
Ah oui, je connais quand même. Quand même, je connais Paris. Avant, j'étais dans le 12e, maintenant, je me retrouve
dans le 4e arrondissement, donc je connais quand même pas.
Merci Jimmy. Qu'est-ce que vous nous recommandez là à 8h12 pour aller prendre un café si on est dans Paris?
Je pense qu'à côté du Saint-Michel, là.
Ouais.
Il y a un bon café qui est là-bas, que j'aime bien. Bon, j'y vais quand même.
Ouais.
Mais c'est pas mal, c'est pas mal.
Chaud de café, rencontre, couple, aller, moi. Cadenas, ouais, moi. 5 enfants, paf, paf, paf. Merci Jimmy.
De rien, pas de problème.
Salut.
On va prendre un café. Moi, j'ai pas le dos au café. Hein,
oui, bah, c'est parti jusqu'au cadenas, ça. Merci, messieurs.
Plus près de toi.
7h, 9h,
Edouard Baird.
Je m'éclate, j'en peux plus.
Il faut changer tous ces jingles. Il faut me virer Grimbergen, là. J'ai pas envie d'en boire à 8h17 et j'ai pas envie de boire du savon liquide Intermarché non plus et le comblage non plus. Voilà. Bonjour, comment ça va, chers auditeurs? Marie Missé, vous êtes prête pour votre petit...
Je suis très prête.
Mais je voudrais qu'on appelle juste avant, chère Marie, qu'on appelle Julien Mouret qui est à Albi dans le Tarn. Parce que Julien, bonjour.
Oui, bonjour Edouard.
Julien, il y a quelque temps dans le New York Times, hein, j'ai du mal avec les lettres, il y avait un article qui décrivait les villes moyennes françaises dont le centre-ville se mourait, qui se désertifiait, et il y avait une sorte de vision un peu apocalyptique de cette France qu'avaient rêvé les Américains qui serait en train de disparaître d'après eux. Hein. C'était juste après les articles de Fox News sur les no man's land dans les grandes villes. Et vous qui êtes commerçant, industriel, qui êtes un amoureux de votre ville d'Albi, ça vous a énervé, vous avez décidé de réagir, vous avez décidé de répondre au New York Times.
Ah ben c'est énervant d'entendre des choses comme ça, c'est une vaste fumisterie. Moi ça me fait penser à l'époque quand ils disaient qu'à Paris il y avait la guerre, alors qu'il y avait quelques voitures qui brûlaient dans les banlieues, quoi. Donc c'est à peu près la même chose, donc ils en font des tonnes pour décrire la France. Je pense qu'il ferait mieux de s'occuper quand même de leur pays, hein, parce que pour... Si un Trump est passé, c'est qu'ils doivent avoir des problèmes chez eux quand même. Donc voilà, c'est un peu énervant, c'est vrai. Hein. Moi qui connais bien le président des commerçants d'Albi, Stéphane Kuntz, il se débat tous les jours. En plus, je pense que vous avez un témoin à vos côtés qui peut dire que Albi est une ville magnifique. Mon ami Atmen pourrait vous dire que c'est vraiment...
En effet, Atmen Khalif, qui est albigeois aussi.
Ah oui.
Julien, effectivement, il y a cette tentation, le France bashing, comme on l'appelle, c'est-à-dire de discréditer tout ce qui se passe en France. Il y a une petite réalité quand même, puisque avec ce développement des zones commerciales à l'entrée des villes, énormément de commerces de centre-ville ferment. Comment est-ce qu'on peut encore aujourd'hui nous... Parlez-moi du Albi que vous aimez, qui nous fait rêver et qui nous donne envie d'y aller.
Ben, le Albi qu'on aime, on est dans une région toulousaine, moi que je trouve l'une des plus belles de France. On a le soleil, on a les montagnes pas loin, on n'est pas trop envahi par la foule touristique du juillet août, donc voilà, on n'a rien à voir avec le côté de Toulon, Marseille, là-bas, qui est un peu, voilà.
On est en terre d'Ovalie chez vous, cher Julien. Est-ce qu'on est en terre d'Ovalie, cette France du Sud-Ouest qu'on a?
Totalement, avec Toulouse, Albi, Castres, à quelques kilomètres. Voilà, on est vraiment dans la terre du rugby. On est des terriens.
Julien, dites-moi des rues que vous aimez traverser dans Albi, la journée ou le soir. Faites-moi un petit parcours.
Vous avez la rue de la mairie, vous avez... Moi, j'aime bien le quartier du marché couvert, qui est très vivant le soir, bon, surtout l'été, parce que là, ce journaliste du New York Times, quand il est passé, c'était un jour morose, froid, avec une pluie fine qui tombait. Je suis pas sûr que Chicago, à la même période, ça soit sensationnel aussi, hein, donc... Bon, à Albi, on risque pas de prendre le coup de couteau comme à Chicago, sûrement. Donc,
Atmen, c'est quoi vos rues d'Albi, vous?
Non, mais moi, je suis comme Julien, on a déjà passé des étés ensemble. C'est merveilleux ce qui se passe l'été au marché couvert. Tous les commerçants sortent des tonneaux, sortent les produits. Il y a un orchestre en permanence. C'est magnifique ce qui s'y passe. C'est une énorme bodega tout autour du marché, à l'ancienne, qui dure, mais vraiment... tout l'été, quoi, c'est incroyable. Il y a des festivals, il y a le plus gros festival son et guitare, il y a un truc incroyable. C'est ma ville, moi je la défends aussi. Parce que...
Julien, vous êtes dans quoi?
Il n'y a même pas à la défendre, la ville.
Ouais, non, tout
que,
à fait.
Que même à la limite, on peut prendre une autre ville en France qui pourrait être moins attractive, Mais pas Albi. À Albi, c'est, il y a une cathédrale qui est magnifique, il y a des commerces autour qui sont vivants. Je veux dire, le marché couvert dessous, il y a des animations, il y a des orchestres. Je veux dire, on peut trouver en France éventuellement une ville qui est moins attractive.
C'est sympa, mais pas Albi, c'est sympa hein. De renvoyer la, de renvoyer ce.
La patate chaude.
Merci, cher voilà. Julien. On appellera d'autres villes. Il y a un guide formidable comme ça qui est paru sur les villes mal aimées de France. Et il y a 7-8 villes qui sont choisies.
Et Julien, qui est en entreprise depuis ce matin.
Dont Draguignan et tout ça. Et le journalisme vous fait aimer ces villes un peu oubliées. Julien, merci. Vous travaillez dans quoi, vous ?
Alors, moi, je travaille dans une entreprise adaptée qui s'appelle Rebron. Et voilà, on travaille dans le façonnage. On s'occupe de personnes handicapées, en fait. Voilà. Donc, j'en suis le responsable. Et ça se passe pour l'instant. Jusqu'ici, tout va bien.
Donc, toutes les personnes qui travaillent dans votre entreprise sont des personnes handicapées ?
Tout à fait. Voilà. 80% des personnes sont des personnes handicapées. Alors, je fais une distinction. Si c'est un handicap physique, ce n'est pas un CAT, vous savez, où ce sont plus des personnes touchées psychologiquement. Donc là, c'est plus un handicap physique. Ce sont des personnes autonomes. Voilà. Et on travaille sur du façonnage, c'est-à-dire que... On crée des produits pharmaceutiques de Airbus. On travaille pour Airbus beaucoup. Voilà. Donc, pour l'instant, on a du boulot.
Pharmaceutique pour Airbus ?
Non, pharmaceutique, ce sont les labos Fabre, par exemple.
Je croyais que vous faisiez des médicaments pour les avions, des trucs pour tenir en avion.
Non. Bon. Il n'y en a pas besoin pour l'instant. Mais enfin, voilà. Donc, on travaille beaucoup sur ça. Et pour l'instant, écoutez, ça se passe. Relativement bien.
Merci, cher Julien.
Merci, Edouard.
C'est l'heure du café ?
Exactement. Oh, allons le prendre.
Café, cigarette, à très vite.
Exactement. Merci, salut Julien.
Passez une bonne journée.
Bonne journée.
Atmen, j'embrasse Atmen.
Oui,
moi aussi, très, très fort. Oui.
Allez, merci, bonne journée.
Qui c'est qui a dit qu'elle ne travaillait pas, qu'elle ne fait que lire le journal ? La revue de presse de Marie Misset.
Bonjour Marie.
Bonjour Edouard. On commence avec une bonne nouvelle. Alors qu'on nous promet tous les deux jours des burn-out en cascade en France, La Croix sort une vaste enquête de la CFDT. 77% des Français interrogés disent aimer leur travail. Le Figaro, lui, défend la taxe Molière que plusieurs élus régionaux comme Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez veulent imposer sur les chantiers. Il faudrait parler français, non pas par populisme, nous dit le Figaro, mais pour lutter contre le dumping social de ce que la gauche appelait en 2005, le Figaro le rappelle, le plombier polonais. Libé titre sur le vote utile qui pousserait des soutiens de Hamon à voter Macron pour éviter un duel Fillon-Le Pen, ce qui, d'après Libé, révèle les difficultés de la campagne de Benoît Hamon. Tandis que, justement, le Parisien répond à Libé. Benoît Hamon re-rentre en campagne et dévoile son programme. C'est très à gauche, tout de même, dit le Parisien. Benoît Hamon répond, on ne peut pas reprocher à un candidat de gauche d'avoir des marqueurs à gauche. Et puis, et c'est ça qui m'intéresse ce matin, le magazine hebdo de La Tribune et Challenge semble s'être donné le mot en couverture. Haro sur nos smartphones. Déconnectez-vous, crie Challenge, et La Tribune nous met en garde. Le smartphone télécommande nos vies. Dans son édito de La Tribune, Philippe Mabille rappelle quelques chiffres. D'ici fin 2018, on estime que la moitié de la population mondiale sera équipée d'un smartphone. C'est 3 fois plus qu'en 2012, en 6 ans seulement. Donc, quotidiennement, on a en moyenne aujourd'hui 2600 interactions avec notre téléphone. Siri, l'assistant virtuel d'iPhone, n'en est qu'à ses débuts, nous dit-on encore en édito. Bientôt, 20% de nos interactions avec notre appareil se fera via un assistant dont le but sera de deviner nos désirs, de les anticiper, et puis on peut le dire sans trop dépasser la pensée de Philippe Mabille, sans doute de les créer.
Il existe désirs. Siri, vous pensez ?
Siri.
C'est comme le déontologue de l'Assemblée, il y a vraiment un mec dans un bureau, ça me... Oh non.
Je pense que pour plein de gens, il existe vraiment. La Tribune imagine deux scénarios qui pourraient avoir lieu à court terme. En voilà un. Jacques emmène ses enfants à l'école. Depuis 2 jours, son assistant personnel virtuel, Gaston, remarque que le rythme cardiaque de Jacques a un peu augmenté. Il propose donc de le signaler au médecin de Jacques. Jacques dit oui. Le médecin répond par mail « J'ai deux dispos, une à 13h, une à 19h ». Jacques est un homme disponible, il pourrait aller aux deux, mais Gaston lui dit « Oulala, non, tu n'y penses pas avec le trafic à 19h, il faudrait que tu ailles à la séance de 13h ». Jacques ira donc chez son médecin à 13h.
Et Gaston, il est de la famille Siri ?
Oui, c'est un assistant virtuel comme Siri. Ouais. Un scénario fictif.
Il y en a deux alors, oui.
qui paraît pas foufou, c'est fictif, hein, qui mime nos quotidiens surassistés par nos smartphones. Et alors que la Tribune & Challenge s'inquiète de l'emprise de nos téléphones, ces facilitateurs de tourner en rond sur nos propres envies, la revue Esprit consacre justement son numéro du mois à, je cite, le problème technique. Un des volets de la revue est consacré aux nouveaux imaginaires que les smartphones et Internet à portée de main en permanence créent. Dans son article, Maël Renoir nous explique par exemple qu'avec Google dans nos mains, on est non seulement aidé dans notre mémoire, mais qu'on instaure un tout nouveau rapport avec elle. Il raconte par exemple l'histoire d'un homme chargé d'écrire les mémoires d'une célébrité à sa place. Le ghostwriter, comme on dit, avait pour mission de faire croire que la célébrité en question s'était rendue à un match de baseball historique aux États-Unis. Le ghostwriter et la célébrité ont donc passé des heures sur YouTube devant des archives du match pour décrire la scène aussi précisément que possible. La couleur du ciel, l'atmosphère du stade. Ils ont pu se rappeler des choses qu'un homme qui a vraiment assisté au match n'aurait pas forcément été capable de dire. Que vaut alors la différence, demande Maël Renoir, entre l'homme qui a été là et l'homme qui n'a pas été là? L'expérience vécue, dit-il, a perdu ses privilèges. Il dit aussi qu'avant, le désordre était l'ennemi de la mémoire, que pour se souvenir, il fallait classer, ranger, indexer. Avec Internet, plus besoin, tout est à disposition. Nous vivons, dit-il, le crépuscule du classement. Ce qui m'a fait me demander ce qu'auraient été les expériences de deux hommes différents, rencontrés tous les deux dans ma lecture de la revue Comprendre le monde, de la revue 21, et qui ont fait appel à leur mémoire classeuse et classieuse dans des moments particulièrement difficiles pour survivre par l'esprit. D'abord Stéphane Hessel, qui raconte qu'en camp de concentration, il se récitait de tête toute la poésie qu'il connaissait, que ça lui permettait de rester immobile et en même temps apaisé. Jean-Claude Kaufmann, journaliste puis écrivain, qui a été otage pendant 3 ans au Liban dans les années 80, raconte lui qu'il se récitait ses vins, notamment le classement des grands crus. Plus le corps subissait, dit-il, plus l'esprit devenait agile, aigu, inventif, en jouant avec sa mémoire, dit-il, et il récite ce qu'il se récitait alors pour tenir. Le classement des grands crus de 1855 correspond à la guerre de Crimée. J'ai dégusté un Château Lafitte 1870 vendangé quelques jours après le désastre de Sedan et la proclamation de la République. Je me souviens d'un champagne Bollinger 1914, le raisin cueilli par les femmes juste après la bataille de la Marne. Si le classement est à son crépuscule, ces textes de Stéphane Hessel et de Jean-Claude Kaufmann font ressortir sa force et ses charmes.
Merci, c'est très beau. Oui. Ça rappelle aussi Solzhenitsyn qui avait organisé entièrement son cerveau comme ça, à partir de poèmes qu'il connaissait, qui avait recréé un alphabet, qui a écrit ses livres dans sa tête. Mais pour en revenir à Siri, ça m'a beaucoup intéressé votre histoire, parce que j'en étais resté déjà dans le monde animalier. Vous savez, la folie, c'est pas de parler à son animal, c'est quand l'animal vous répond. Et pour Siri, j'ai l'impression que c'est le contraire. C'est si on commence à être jaloux. D'abord, la ressemblance sonore avec un pays en guerre crée des inquiétudes, forcément, parce que cette application s'appelait Monaco, allô Monaco, comment ça va? On serait déjà plus rassurés. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a un truc, des jalousies peuvent naître. Quoi? Toi aussi, t'es en rapport avec Siri? Toi aussi? Je sais pas. Tout m'inquiète, j'ai peur de tout. Je vais aller boire un coup. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Qui a pour tradition de lancer le journal et le rappel des titres en retard? C'est nous. 8h33, le rappel des titres de Thierry Paré.
On est en retard, mais on est très sympathique aussi. Les résultats définitifs des élections néerlandaises seront connus dans la journée. On peut d'ores et déjà dire que le parti du Premier ministre libéral Mark Rutte est arrivé largement devant l'extrême droite de Geert Wilders. Sur 95% des bureaux de vote, les libéraux obtiendraient 33 sièges environ, contre 20 pour l'extrême droite. L'extrême droite qui gagnerait quand même des sièges par rapport à l'Assemblée actuelle, entre 4 ou 5. Le scrutin a été marqué, c'est à noter, par une participation massive. Près de 78% des 13 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes. Un nouveau revers judiciaire pour Donald Trump. À quelques heures de l'entrée en vigueur de son nouveau décret anti-immigration, deux juges fédéraux des États d'Hawaï et de Washington ont bloqué le nouveau texte du président américain. C'est un magistrat d'Hawaï qui a frappé le premier. Il a estimé dans son jugement que le décret comportait, je cite, des preuves significatives et irréfutables d'animosité religieuse. Autre dossier compliqué pour Trump, c'est le démantèlement de l'Obamacare, système de couverture sociale donc que tout le monde connaît. Ce démantèlement promis par le président américain pourrait priver entre 24 et 25 millions d'Américains d'assurance santé à l'horizon 2026. Des milliers de Brésiliens ont manifesté hier dans les principales villes du pays pour protester contre la réforme des retraites du gouvernement du président Temer, qui prévoit de porter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Ils ont été jusqu'à occuper le ministère de l'économie, carrément. Le groupe Renault dans la tourmente, selon la répression des fraudes, des stratégies frauduleuses ont été mises en place depuis plus de 25 ans au sein du groupe afin de fausser les tests d'homologation de certains moteurs diesel et essence. Le Front National qui suspend Benoît Le Yay et qui annonce sa prochaine exclusion division du parti. Ex-dirigeant identitaire, Benoît Lehier est le responsable FN de Nice. Dans un documentaire diffusé hier soir sur C8, on l'entend tenir des propos négationnistes. Il nie notamment le massacre de masse pendant la Seconde Guerre mondiale. 12 vétérans irradiés lors des essais nucléaires français dans le Sahara algérien et en Polynésie française ont obtenu le droit d'être indemnisés par l'État. Entre 1960 et 1996, 210 essais nucléaires ont été menés au Sahara et en Polynésie. Une première mondiale, un fleuve considéré comme sacré par les Maoris, a été reconnu par le Parlement néo-zélandais comme une entité vivante. Il s'appelle le Whanganui et il s'est vu donc doté d'une personnalité juridique avec tous les droits et les devoirs attenant. N'est pas le PSG qui veut, on n'entre pas comme ça en claquant des doigts dans l'histoire de la Champions League. Monaco l'a appris à ses dépens en s'imposant 3-1 hier soir en 8e de finale retour face à Manchester City. Les Monégasques qui s'étaient inclinés 5-3 à l'aller en Angleterre se qualifient donc pour les quarts de finale de la compétition. Quand il y a match nul, les buts à l'extérieur comptent double. Tirage au sort, demain on notera aussi la qualification de l'Atlético Madrid qui a battu les Leverkusen.
Monaco.
Pardon, attendez.
Je voulais boire un café, donc je voulais que vous me viriez du studio.
Ah d'accord, faites-vous virer, allez-y.
Merci.
Allez, vas-y.
Monaco.
Non, c'est dehors, ça c'est dehors. C'est dehors. Jack Souvent.
Moi, je suis trop bien ici. J'ai découvert une place, la place Dauphine.
Jack Souvent, la place Dauphine où habitait Yves Montand et Simone Signoret, qui vous aimait beaucoup.
Bah oui, c'est incroyable. Vous le savez, moi, je savais pas du tout. Et hier, j'étais devant chez Gainsbourg, aussi par hasard, rue de Verneuil. Là, je suis à côté de chez Montand. Je suis avec Guillaume qui est. Donc, j'ai croisé Guillaume qui remontait l'avenue avec un. C'est quoi? C'est un clavier que vous avez sur le dos?
Un clavier sur le dos.
Donc, vous êtes musicien cuistot.
C'est ça, cuistot musicien. C'est que je commence ma journée, je vais faire de la cuisine jusqu'à 4h, 5h cet après-midi, et puis je répète ce soir.
C'est pas trop dur l'interview comme ça, direct avant le café?
J'ai bu 2-3 goulées de café, et là, ça va un peu mieux, mais ouais. C'est
la goulée, le café à la goulée, la métaphore du piano en cuisine et du piano dans le monde
tout
musical.
Fait, là,
on
fait,
est ensuite place Dauphine où il y a eu cette violence misogyne de Yves Montand parlant Simone Signoret, en évoquant ses principaux rôles. Il avait dit je me couche avec Casque d'or et je me réveille avec Madame Rosa, qui était effectivement un autre rôle qu'elle interprétait après plusieurs bouteilles qu'elle avait dû boire liées à sa vie difficile de couple. Mais nous ne sommes pas là-dedans, nous sommes sur cet homme au clavecin dans le dos, guitare au ventre. Est-ce qu'on est proche d'un homme orchestre?
C'est un synthétiseur, donc si je veux, je peux faire tous les instruments sur ma petite bécane.
Cher ami, si je veux, je peux, c'est une très bonne devise pour relancer cette journée. Est-ce que vous pouvez l'appliquer dans d'autres choses que dans la musique?
Si je veux, je peux. Non, ça s'applique qu'à la musique et à la cuisine aussi. Si je veux faire un risotto aujourd'hui, je le ferai.
Est-ce que vous le faites pour des clients? Vous faites la cuisine chez vous?
Non, je fais pour des clients qui vont venir manger tout à l'heure.
Est-ce que c'est vous qui établissez le menu? Est-ce un menu du marché? Vous est-il imposé par une force du capital qui aurait acheté ce restaurant?
Le capital n'est pas loin, mais j'ai quand même une marge de liberté assez importante, vu que je suis tout seul.
Mais seul, vous refusez même les clients? Vous êtes dans ce niveau d'exigence?
Ah bah le chef a ses humeurs, hein.
Oui.
Le chef a ses humeurs, voilà. C'est selon l'humeur du chef, il peut être de très mauvaise humeur parfois.
Est-ce que sur votre tablier, il y a écrit « N'engueulez pas le patron, la patronne s'en charge
» Non, sur mon tablier est immaculé, il est tout blanc.
On va manger.
La patronne, elle est à côté et puis elle ne veut pas vous parler, mais elle vous connaît et elle connaît Atmen aussi.
Oui, c'est pas bon signe.
Oui, tout à fait. Il paraît que ça date de très très longtemps. Alors moi, j'essaie de savoir, mais on parle de coffee, de choses comme ça. Je ne sais pas. Moi, je n'en dirai pas plus.
Bon,
il y a du dossier apparemment.
Il y a du dos dans le monde de la restauration et de la boisson parisienne. Plus qu'à mon tour, j'ai payé mon tribut. Je vous souhaite une très bonne journée, chef musicien.
Mais je vous remercie, à vous aussi. On est invité apparemment.
Alors si c'est du gratuit, que c'est sans note, on ira. Merci beaucoup. Justement, on parle nourriture ici en plateau avec notre invité face à Thomas Baumgartner aujourd'hui, c'est Marta Represa.
Bonjour.
Marta Represa signe dans l'Express Style de cette semaine avec un couverture Alain Passard qui fait un bras de fer avec un homard. Un article passionnant sur le rapport de Trump à la nourriture. Peut-on expliquer les opinions politiques d'un homme et ses dérives tyranniques par rapport à son alimentation?
Oui, il y a une véritable lecture politique de comment mange et que mange Donald Trump. Et vous dites dans cet article que Trump, c'est la malbouffe au pouvoir.
C'est-à-dire qu'il reflète tout le reste, en fait. Il déteste tout ce qui est libéral aux États-Unis, donc il déteste Obamacare, il déteste les droits LGBT, il déteste les minorités, il déteste les femmes. normal, il déteste le kale et il déteste le matcha latte aussi. Donc,
kale, c'est quoi, excusez-moi?
Le kale, c'est le chou frisé que vous allez trouver dans le marais, par exemple.
Donc, la nourriture de gauche, la nourriture branchée, et il y a une nourriture. Est-ce que vous pensez qu'il fait exprès? Parce que dans votre article, on dit qu'il a l'air de faire un petit peu exprès, de manger du KFC, de manger des frites surgelées.
Moi, je pense que c'est un peu un mélange parce que ça lui convient très bien dans sa campagne. Le genre de gens qui vont voter Donald Trump, ils vont aussi aller manger KFC, McDo de façon régulière. Donc, ça leur convient très bien de voir que oui, ok, il a un jet privé tout en or à l'intérieur, mais il mange comme nous.
C'est le fameux truc, il est comme nous. C'est comme les hommes politiques français au Salon de l'agriculture. Si on refuse un coup de rouge, un petit coup de fromage, ça veut dire qu'on n'est pas comme nous, quoi.
Oui, mais alors, ce que c'est une citation d'un publicitaire proche des Républicains dans votre article, Martin Represa, et ça donne aussi une idée de ce qu'est le peuple dans la tête de ces gens-là. C'est-à-dire que la malbouffe égale le peuple.
Oui, complètement. Enfin, moi, je pense que c'est une déformation aussi de l'histoire américaine et de la culture américaine qu'il y a maintenant, mais dont il profite, justement.
Mais il y a une chose aussi, c'est qu'on se rend compte que ce qu'il mange peut avoir des conséquences sur ses décisions.
Sur sa santé physique et surtout
d'abord
mentale.
D'abord, sa santé physique et mentale, donc sur sa manière de travailler.
Oui, effectivement, c'est pas un hasard si, par exemple, il tweet de manière furieuse à 3h du matin, il va insulter la terre entière, etc.
C'est parce qu'il digère mal.
Ah, c'est la digestion.
Oui, exactement. J'ai interviewé un docteur, un nutritionniste qui s'appelle le docteur Dibo Cohen, qui me disait qu'il dîne trop, un peu trop gras, trop... Trop fort.
Il y a une description formidable comme ça. Vous savez que Jean Gabin, cet acteur français qui était souvent de mauvaise humeur, dans un livre de Pascal Jardin, on décrit le ventre de Jean Gabin en action. Et c'est vrai que c'est des générations d'hommes qui ne mangeaient pas de légumes. On ne mangeait que de la viande. Et donc tout à coup, ça tourne, ça turbine, ça fume. C'est comme une locomotive à vapeur. Est-ce qu'on est au courant un peu? Est-ce que des gens ont écouté le son du ventre de Donald Trump ou pas?
Je ne sais pas si les gens veulent s'approcher autant de Donald Trump.
Oui, on a l'impression que même sa femme n'y tient pas.
Non, sa femme surtout, non.
Alors, vous dites dans l'article que Donald Trump mange sa pizza avec un couteau et une fourchette et ça pose un problème. Et où est le problème, excusez-moi?
C'est son idée de fine dining, c'est de manger le KFC avec la fourchette et le couteau. Voilà. Mais pour les New Yorkais, en fait, c'est un péché capital.
Ah, c'est une sorte de bouffe de merde, mais mangée d'une façon un peu chic, avec des couteaux en argent.
Ben, en fait, pour les New-Yorkais, c'est juste un péché de manger la pizza avec des couteaux. Ils achètent la pizza by the slice dans la rue et ils le mangent comme ça. Donc, que lui, il mange avec le couteau, c'est vraiment un truc tacky. C'est muy hortera.
J'adore ce mélange d'américain, d'anglais, d'espagnol. Vous êtes d'origine espagnole aussi, vous? Comment il est vu en Espagne, Trump? Les gens s'en amusent?
comme le 45e président.
Voilà, ce sont des choses très différentes. Il y a tout un truc sur la croûte, sur les calories qu'on gagne en enlevant la croûte de la pizza. Il est assez précis sur cette nourriture, cette junk food qui mange quand même.
Oui, apparemment, voilà, il utilise les fourchettes et les couteaux pour donner une impression de luxe en mangeant la pizza. Mais en même temps, il veut en fait enlever la croûte parce qu'il pense qu'il y a plein de calories qu'il annule comme ça.
Alors le hamburger, c'est un passage obligé pour un Américain de n'importe quelle partie. On sait même que Obama allait beaucoup dans cette chaîne un peu branchée, sur les Five... Je ne sais plus comment s'appelait
la chaîne. Guys.
Five Guys, qui était la chaîne d'Obama. C'était un peu raffiné. C'était déjà de la viande qui avait vécu un peu plus heureuse. Quant à lui, Trump, vraiment, il est fier de parler de McDonald's, KFC, Wendy. C'est vraiment le bas du... Ça rassure les Américains?
Moi, je pense que oui, parce que Obama, d'un autre côté... Enfin, les démocrates qui, soi-disant, selon les républicains, ils vivent dans une bulle, ils sont complètement déconnectés. C'est à cause de ça que Donald Trump a gagné l'élection. Ils sont aussi, soi-disant, déconnectés dans l'aspect gastronomique. Donc, Bill Clinton, il est devenu vegan il n'y a pas longtemps. Michelle Obama, je pense qu'elle gronde, bien grondait son mari si jamais il ne mange pas bio, etc. Elle a son jardin et tout ça. Et donc, pour Trump, c'est le contraste, c'est comme pour tout le reste. Sortir de la bulle et être vraiment avec le peuple.
Merci, cher Martin Represa. On vous fait passer en ce moment sur la radio des photos un peu du système digestif et intestinal. On voit le côlon là sur la droite de Trump.
Ah, c'est ça.
On voit, voilà, regardez, vous voyez les probiotiques là, il en manque là. Donc tout est stocké là, je dirais les matières pour ne pas rentrer dans les détails. Et donc tout ça continue de tourner.
Et la tâche, c'est quoi?
Alors, on y reviendra. Merci, c'est dans l'Express Style, c'est en vente en course. Atmen, oui?
Et on lui propose, pour maigrir à Obama, de faire le régime du con. Voilà.
Bon, tu sors.
Oui, voilà.
C'est 7h09, plus près de toi.
Alors, on est avec Albin de la Simone, chez Rudy, juste à côté au Café Nova. Beaucoup de monde s'est déplacé ce matin. Ces musiciens sont déjà sur leur téléphone en train
c'est
de
le grand amour écoute-moi. Ensemble. Le grand amour ensemble.
Alors, on est enchanté parce qu'on le passe beaucoup dans l'émission, Albin, mais on est content de vous écouter en vrai.
Merci, Jacques Chancel. Je suis ravi de...
Oui, alors ce grand échiquier vous est consacré. Vous avez demandé la présence de Louis de Funès, de Lino Ventura, d'Atmen Khelif et de Tito, qui vont témoigner sur vous. Et puis les grandes présentations de Rudy, qui sont très appréciées. Vous allez voir.
Avoir la chance de pouvoir écouter de belles chansons douces, de beaux mots en français un jeudi matin sous cette verrière. Finalement, cela tient à peu de choses. À quelques octaves près, Albin de la Simone ne serait pas là avec nous ce matin, mais continuerait sans doute à faire du bien dans l'ombre à la chanson française. C'est à l'âge de 30 ans. Que sous les encouragements.
Est-ce que mademoiselle, qui est violoniste, pouvait accompagner le texte de Rudy?
J'y avais pensé ce matin dans la voiture en venant. C'est magnifique.
Comment vous appelez-vous?
Elle s'appelle Anne Gouverneur.
Anne Gouverneur, qui est au violon.
Anne Gouverneur, d'accompagner la présentation de Rudy, s'il vous plaît. Ouais. C'est un des plus beaux rires que j'ai entendu de ma vie dans cette émission. Je vous demande de l'ovationner.
Anne, t'es prête?
C'est le rire de Maëva Lebert.
On y va, Anne?
Attention, avec plaisir. Accompagnons la présentation de Rudy.
Donc, je venais de dire que Albin a beaucoup, beaucoup travaillé dans l'ombre pour ce que la chanson française compte de mieux. Et c'est à l'âge de 30 ans que, sous les encouragements de ses pères, dont Souchon, que tu adores, Edouard, Philippe Catherine, Bogart, ce qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, Albin de la Simone a accepté d'adopter sa propre voix, d'en faire sa force pour chanter la douceur, l'humanité des histoires de l'un de nous avec une finesse rare. Et puis il y a aussi une autre rencontre de l'ordre du grand amour, celui qui ne nous quitte pas, celui qu'Albin a recherché pendant des mois et qu'il a fini par trouver dans les anciens studios Vogue, son piano, celui qui répondrait parfaitement à sa voix si particulière. Alors merci au piano, merci au hasard et surtout merci Albin d'avoir osé depuis des années te mettre à nu pour parler si bien de la vie. Si simplement.
Albin de la Simone, pour résumer un peu la question de Rudy, qui est toujours la provocation et une certaine agressivité, c'est comment faites-vous pour être si formidable? Je crois que c'est là où il voulait en venir.
Non, c'est cette histoire de voix, surtout, que je trouve intéressante.
C'est des piqûres que je fais.
Oui.
Voilà, j'ai fabriqué un truc et c'est des piqûres.
Vous baladez beaucoup, faites beaucoup de tournées?
Oui, le plus possible.
Où ça vous allez, par exemple? Où est-ce que vous aimez aller jouer?
J'aime aller partout. Mais en fait, quand on fait des chansons en français, on va plutôt en terre francophone. Donc Québec, France, Suisse,
c'est bien
Belgique.
De jouer au Québec.
Ah oui,
hein.
Oui, Montréal. Ben, Montréal, c'est vraiment la ville où je joue le plus, en fait, en proportion. Je joue plus même au Québec qu'en France. Enfin, c'est vraiment un deuxième... j'ai une double vie, en fait.
Avec qui vous entendez bien comme chanteur ou musicien locaux?
Pierre Lapointe.
Oui.
C'est vraiment un ami proche. J'écris des chansons avec lui, tout ça. Ariane Moffat, Jérôme Minière, un ancien français qui vit là-bas. J'ai plein de copains là-bas, vraiment.
C'est formidable, hein, cette chance, ce truc de francophonie, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vrai pour les chanteurs.
Ah oui, il y a un vrai lien.
Et tu parles de tournée, Edouard, et tu peux nous dire deux mots sur cette tournée, je pense qu'il est important d'en parler, avec tous ces grands de la chanson française, montée par Pierre Rabhi, tout à fait.
Alors ça, Colibri, donc c'est le mouvement de Pierre Rabhi qui prône une nouvelle façon d'aborder l'écologie, enfin d'aborder l'industrie et tout ça. Et pour sensibiliser à ça, on se réunit à plein et on va dans des grandes villes, on va faire des concerts dans les Zéniths et des ateliers, des conférences, des épluchages de patates l'après-midi.
Pendant tout le courant du mois d'avril, juste avant le premier tour des élections.
Voilà, d'accord. Ça va chevaucher.
C'est un principe maoïste, c'est de ramener les artistes et les intellectuels à la terre. Avec, c'est ça.
Ça va pas si loin que ça, mais si vous voulez, ouais.
Alors Albin va rejoindre sa formation. Ça, j'aime
non.
Cette expression. Très Jacques Chancel.
Oui,
sous
vrai,
vos applaudissements.
Il va nous interpréter.
Qui accompagne Albin de la Simone aujourd'hui?
Tu as Anne à ta droite qui est au violon, Maëva au violoncelle, François percussion, boîte à tonnerre.
Boîte à tonnerre.
C'est incroyable.
C'est le nom officiel.
C'est incroyable.
Ça existe vraiment ou c'est une création maison, la boîte à tonnerre?
Tout à fait, ça existe. Il y a deux exemplaires ici.
Tu veux jouer de la
touche
boîte à tonnerre,
le petit verre en...
Bon, on écoute un bruit de boîte à tonnerre. Allez vous couvrir, il va vraiment pleuvoir dans les 5 minutes suivantes.
Dans la tête, Albin de la Simone.
Merci beaucoup. Merci à tous, merci à Albin de la Simone, à ses musiciens. Merci, je suis heureux d'être venu et de rester avec vous. À lundi, vive les Trente Glorieuses et au plaisir de vous retrouver.
7h, 9h, plus près de toi.